Juste rapidement, 30 secondes.
Alors, for those who don't speak English.
C'est comme une espèce de soupe inexplicable.
We are, you are in their heart.
The ralliement. Can exprime their point of view.
Especially.
We are, we are in.
Voici une enfant.
Est-ce que c'est une enfant? Oui.
Quand on est vie, c'est aussi important qu'elle puisse avoir.
Parfait. Merci beaucoup de ces précisions.
Hey, Abraham! Suzanne, tu me lèves bien. Elle me l'a dit, bonjour.
Mais je suis tanné de me faire chier sur un bord.
Tu sais pas qui avec Flash, que j'en pense.
Puis de me faire écœurer sur l'autre.
Du soleil, quelque part sans nuageux. Okay. C'est le petit peu que c'est, là.
Ils t'entendent pas, là, le chicane est poigné.
Ma part me fait cracher dessus, oui.
Ça, c'est
Hey John, remontage avec Pauline Marois.
Oh oui!
J'ai montré ce que c'est le Québec en anglais.
Oh oui, oui!
Oui, qui dit non, mais elle avait raison, la mairesse, c'est bien pour ceux qui parlent pas anglais, tu sais. Écoute, on
va faire un job à matin, Kimel, et je vais mettre qu'il rentre pas du point du Québec.
You're listening to RockKick.com.
Don't make me destroy you.
Rejoins les forces obscures. RockKick.com. Fear Ismail and John.
Il est midi. Midi 11 minutes, probablement 18h11 de votre côté, vous les Français. Eh bien, en plus, je crois que la trame est vraiment a priori aujourd'hui, la trame de l'impérial, la marche impériale dans le film Star Wars. Surtout quand on sait que Anne-Marie Delcambre est au bout du fil. Je crois que il y a quelque chose qui va être explosif aujourd'hui, mais John, tout à l'heure, c'est ça, on demandait aux auditeurs, enfin, de nous trouver, et je pense que tu vas comptabiliser, c'est quoi qui va être l'intro de Super Résistant. Juste après, Anne-Marie Delcambre, j'ai trouvé deux autres petits trucs qui vont peut-être brouiller les cartes, si tu veux, Jonathan. C'est une la trame sonore de Spider-Man et aussi celle de Superman, que je pourrais écouter après, bien sûr, Anne-Marie Delcamp, parce que les gens ils sont impatients et ont hâte d'entendre cette jolie voix qui est Anne-Marie Delcamp. Bonjour!
Bonjour!
Ça va bien?
Oui.
Oui. Alors, 3 degrés par chez vous, hein, c'est ça?
Non, mais il fait très froid.
Vous avez été obligé de repartir le chauffage. Ben, en tout cas, juste pour vous rassurer, nous ici, c'est le plein soleil. On se la coule douce. J'ai bu, et là, j'espère que mon gars des sports m'entendra pas, mais on a bu une Eau Garden.
Bon, ça suffit, hein. Ne buvez plus.
D'accord. Je vous écoute. Vous avez quelque chose de gros. Moi, je suis pas du genre à vous stopper lors de vos interventions, de vous dire non, vous devez pas dire ceci ou encore cela. Je crois que je vous laisse aller.
J'y vais?
Oui, allez-y, lancez-vous, explosez.
Voilà, parce que ce que je vais dire maintenant, j'ai vraiment hésité avant de le dire.
D'accord.
C'est vraiment explosif. C'est l'analyse du grand savant allemand Christoph Luxemburg, L-U-X-E-N-B-E-R-G, qui vit caché sous un faux nom et qui est vraiment, qui est obligé de ne... Il se cache, hein. Disons la vérité, okay. Il est sous le coup de deux fatwas. Et je voudrais réussir à présenter sa pensée de façon claire, donc c'est pour ça que c'est assez tendu, hein. Parce que si j'y parviens, ça serait vraiment un scoop. Aucun éditeur ne veut prendre ses écrits, parce qu'ils ont peur d'être plastiqués. Aucun journaliste ne veut le présenter. Enfin, on le présente, mais en s'entourant de précautions. Alors, je vais commencer. Il faut vraiment bien se cramponner sur le Coran. Je vais commencer par prendre la sourate 97.
Allez-y.
Elle est intitulée Laylatul Qadr, c'est-à-dire la nuit de la destinée. C'est la sourate qui est récitée la nuit du 26 au 27 du mois de Ramadan. D'après la tradition musulmane, c'est au cours de cette nuit-là que le Coran a été révélé. Jusque-là, vous suivez, n'est-ce pas ?
Oui.
Elle a 5 versets. La sourate 97 a 5 versets, je les lis en français et en arabe. Nous l'avons fait descendre durant la nuit de la destinée. Qu'est-ce qui t'apprendra ce qu'est la nuit de la destinée? La nuit de la destinée vaut mieux que 1000 mois, des mois comme des mois de l'année.
Oui.
Les anges et l'esprit y descendent avec la permission de leur Seigneur pour tout ordre. Le cinquième verset, paix elle est jusqu'au lever de l'aube. Et en arabe, inna anzalnahu fi laylatil qadr, wa ma adraka ma laylatul qadr, laylatul qadr khayrun min alfi shahrin. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Or, le savant Christophe Luxemburg a regardé le commentaire de cette sourate, hein, chez le persan Tabari, c'est un grand, grand commentateur, et il voit que c'est de la bouillie pour les chats. Ça ne veut rien dire. Dans le An Ta'wil al-Qur'an, le tome 30, page 258-261, écoutez bien ce que dit Tabari, l'Iranien Tabari. Le Coran est descendu, effectivement, en une seule fois, la nuit de la destinée, ça se situe entre le 26 et le 27, comme je l'ai dit, du mois de Ramadan, dans le ciel inférieur, à l'emplacement des étoiles. C'est ridicule, dit Luxemburg. Pourquoi ? Parce que si le Coran est descendu en une seule fois cette nuit-là, n'est-ce pas, entre le 26 et le 27 du mois de Ramadan, ben comment se fait-il que la révélation se soit étalée sur 20 ans ? Si tout est descendu sur le prophète en une seule fois, en une seule nuit, pourquoi la révélation, elle a eu lieu après par petits bouts ? Autrement dit, cette nuit-là, tout est descendu, Anzala, et ensuite, ça s'est, en quelque sorte, ça a été révélé, Nazala, sourate par sourate. Le Coran serait descendu en entier cette nuit-là, puis il a été repris afin d'être à nouveau transmis par fragments au cours de l'apostolat. Incompréhensible, stupide, que vraiment Tabari, il a beau être très intelligent, c'est un commentateur iranien très intelligent du 9e siècle, ça, vraiment, là, il pédale dans le couscous. Or, Luxemburg dit, ce n'est pas du tout incompréhensible. Si l'on considère que la langue du Coran, ce n'est pas ce qu'on pense, l'arabe tel qu'on le croit, c'est une langue mélangée, une langue mixte, qui est un mélange d'arabe et de syriaque. Et dans cette sourate 97, il y a un mot qui pose problème, qui ne veut rien dire, c'est précisément ce mot Qadar. D'abord la preuve, Qadar, parfois j'ai vu dans d'autres Corans, mais Qadr. Qadar, c'est la destinée, la prédestination, le destin. Et Qadr, c'est la quantité, la mesure. Qu'est-ce que ça veut dire, la nuit du destin ? Qu'est-ce que ça veut dire, la nuit où Dieu décide des événements à venir ? C'est n'importe quoi. Quel est le lien entre Dieu qui décide des événements à venir et puis le Coran qui est descendu ? Or, Christophe Luxemburg, qui connaît admirablement et l'arabe, et l'hébreu, et le syriaque, et l'araméen, il dit, mais il faut comprendre le mot Qadar à partir du syro-araméen. Et alors là, on a la solution. Parce que le mot Qadar, c'est pas la destinée, c'est l'étoile de Noël, c'est la nativité. La sourate 97, c'est l'étoile de Noël. Et alors si vous référez à ce que dit Matthieu, Saint Matthieu 2:2, et alors on voit ceci. Où donc est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons aperçu son étoile au levant et sommes venus l'adorer. Or ces paroles sont celles des mages venus d'Orient rendre hommage à l'enfant Jésus, ces mages qui étaient, dit-on, astrologues. Et alors la sourate, elle a un sens extrêmement clair. Parce que la nuit, c'est la veille de Noël. Le mot syriaque, l'Elia, vous voyez, L-E-L-Y-A, regardez la proximité entre le syriaque et l'arabe. En arabe, la nuit, ça se dit Leïla.
Leïla, ok.
Et en syriaque, l'Elia. Et c'est également un terme liturgique. Vous vous rendez compte qu'on dit en arabe salat pour dire la prière, et en syriaque pour dire l'office de la nuit, on dit slata de l'Elia. Rendez compte la proximité. Autrement dit, ce que dit Luxemburg, c'est que les musulmans se sont totalement trompés, gourés, mais c'est vraiment n'importe quoi, car la valeur de cette nuit, elle n'est pas supérieure à 1000 mois. Ça veut rien dire, comme il n'y avait pas de point autrefois. C'est pas char qu'il fallait comprendre, c'est H-A-H-R, c'est sahr, S-A-H-R, c'est-à-dire sahar, les vigiles. C'est quand on passe la nuit. il faut lier les deux mots, l'Elia, les deux mots syriaques, l'Elia et Sahra, et d'ailleurs ça donne la nuit de Noël est plus bénéfique que mille vigiles. Et Luxemburg remarque qu'il y a un hadith attribué à celle que vous aimez, Aïcha, qui indique que dans la nuit, justement, d'Al-Qadar, il y a des vigiles qui sont tenus. Vous savez, des sortes de
oui.
veillées de prières. Or, Tarwiha, pluriel Tarawih, les prières facultatives, c'est bizarre que ça soit cette nuit-là. Car en islam, il n'y a pas de liturgie nocturne. Mais la tradition, en revanche, des vigiles de Noël, elle était observée par les Arabes chrétiens. Et d'autre part, le verset 5, avec le mot salam, ça nous renvoie à l'hymne des anges cité par Luc 2, 14, « Gloire à Dieu dans les cieux et paix sur la terre, tous les chrétiens connaissent ce chant, etc. » Donc cela rejoint la tradition de l'église syriaque, selon laquelle la messe de Noël est célébrée non pas à minuit, mais le matin, à l'aube, d'où la précision du Coran, « Paix jusqu'à la pointe de l'aube ». Et ça, cela est confirmé par le grand dictionnaire, le Lisan al-Arab, où si on regarde le mot « nuit », on voit que la nuit la plus longue de l'hiver, faut regarder « at-timam » ou « at-tamam », et on trouve ceci. Cette nuit est aussi la nuit de la naissance de Jésus, et les chrétiens la glorifient et y tiennent vigile. Donc la nuit de la destinée que les musulmans célèbrent avec tant de ferveur, c'est en réalité la nuit de Noël. Et il faut comprendre la sourate de la manière suivante, qui là prend tout son sens. Certes, nous l'avons fait descendre, l'enfant Jésus, dans la nuit de la nativité. Qu'en sais-tu de ce qu'est la nuit de Noël ? L'office de Noël, l'office nocturne de Noël est plus bénéfique que mille vigiles. Les anges accompagnés de l'esprit font descendre avec la permission de leur Seigneur toutes sortes d'hymnes, paix et cette nuit jusqu'à la pointe de l'aube. Et ce que remarque Luxemburg, c'est que ça a été une copie de l'hymne syriaque chrétien qui existait à l'époque du prophète. Et il remarque des tas de choses dans les sourates. La sourate 5 est intitulée Al-Ma'ida, la table servie. Vous savez, c'est une table où il y a plein de choses dessus. Et le verset 114 dit ceci, « Mon Dieu, mon Seigneur, dit Jésus, fils de Marie, fais descendre sur nous du ciel une table qui sera pour nous une fête pour le premier et le dernier de nous, ainsi qu'un signe de ta part, nourris-nous, tu es le meilleur des nourrisseurs. Mmh. » Et en arabe, ça donne ceci, « Qala Isa ibn Maryam, Allahumma Rabbana, anzil alayna ma'idatan minas sama, takunu lana aidan li awalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khayrul raziqin. » Or, cette sourate 5, elle est la dernière révélée selon la tradition islamique. Ça ne veut rien dire, la table servie, la sourate de la table. Mais c'est la scène, C-E, accent grave, N-E, des chrétiens. Le mot arabe, Aïd, qui veut dire fête, est emprunté à l'araméen, et ça veut dire le mot liturgie. Et si vous la traduisez en syro-araméen, ça donne « Seigneur notre Dieu, dit Jésus, fais descendre sur nous une scène, qui soit pour nous une liturgie, pour le premier et le dernier d'entre nous, nourris-nous, tu es le meilleur des nourrisseurs. » Et c'est tellement vrai que chez Tabari, il voit très bien l'emprunt chrétien, le malin, puisqu'on trouve un écho de la multiplication des poissons et des pains, il cite même Matthieu 14, 17 et 15, 32. Or, ce que dit Christophe Luxemburg, c'est que les exégètes, les commentateurs persans,
okay.
qui ne connaissaient pas ni le syriaque, qui ne connaissaient ni le syriaque, ni l'araméen, ni l'hébreu, ils ont traduit, par exemple, dans une sourate par Ouri, ou les Vierges du Paradis, là qu'on rigole, des expressions qui désignent en réalité le raisin blanc ou la vigne. C'était la composante du paradis chrétien, vous savez, le vin du dernier repas, la dernière scène.
Oui.
Autrement dit, les kamikazes, les martyrs de l'islam, qui se font sauter, ils se font tuer pour des prunes, pas pour des prunes, plutôt pour du raisin.
Ouais, du
et
raisin.
Pas du tout pour des vierges là, du paradis qui n'a jamais existé.
C'est
et c'est tellement vrai que si vous prenez la sourate 96, verset 19, il y a un truc incompréhensible qui est dit ceci. Prosterne-toi et rapproche-toi. Wasjoud ou joud waqtarib. C'est incompréhensible. Prosterne-toi et rapproche-toi. Rapproche-toi de quoi ? C'est tout. Prosterne-toi et rapproche-toi. Or, le terme syriaque, c'est Etkarab ou Eskarab. Ça veut dire participer à l'Eucharistie. Ça veut dire prosterne-toi et communie. De même, la sourate 108, intitulée Al-Kawthar. C'est quoi Al-Kawthar? Alors, les commentateurs ont dit c'est un fleuve du paradis. D'autres ont dit ça veut dire l'abondance. Et ils ont traduit ça d'une manière incroyable. Nous t'avons donné l'abondance, pris en l'honneur de ton Seigneur et sacrifie. En vérité, celui qui te hait, c'est le châtré, le coupé, celui qui est impuissant. C'est n'importe quoi. Ça dit en arabe, inna a'tayna kal-kawthar, fa salli li rabbika wanhar, inna shani akahu wal-abtar. Or, la lecture syriaque, ça rappelle la première épître de Pierre, de Saint-Pierre, 5, 8, 9, où les fidèles sont exhortés à la persévérance. Ça donne ceci, nous t'avons donné la constance, prie donc ton Seigneur et persévère dans la prière, ton adversaire Satan est alors le vaincu. Et même le mot Coran, Qur'an, ça vient du terme syriaque Qur'an, vous rendez compte, Qur'an, qui désigne un livre de prière syro-chrétien. Mais il y a encore un autre exemple, encore mieux. La sourate 19, dite oui. De Marie, verset 24, dit ceci. Ça n'a aucun sens. L'enfant Jésus qui est né, n'est-ce pas, de l'Esprit, je ne sais pas quoi, et puis de Marie, l'enfant qui était à ses pieds lui parla. Ne t'attriste pas. Ton Seigneur a mis à tes pieds un ruisseau. Mais on est en plein délire, c'est comme les vierges du paradis. Alors que la lecture arabo-syriaque donne ceci. Ne t'attriste pas, lui cria l'enfant. Ton Seigneur a rendu ton enfantement légitime. Ce qui est beaucoup plus compréhensible. Autrement dit, ce que dit Lusenberg, c'est que ce qu'a repris le Coran, il a repris une liturgie chrétienne pré-islamique d'avant l'islam. Il a repris une sorte d'hérésie, ce qu'on appelle une secte judéo-chrétienne, moitié presque juive et moitié chrétienne. Et ce qui est étrange, c'est que chez le savant Al-Yaqoubi, il dit ceci, le savant Al-Yaqoubi, il se trahit, il dit parmi les Arabes qui étaient devenus Nazaréens, Al-Nasara, il y avait un groupe de Quraysh, vous savez, de la tribu, là, prétendument à la Mecque. Parmi eux, Waraka ibn Nawfal, cousin de Khadija, elle-même nazaréenne, c'est-à-dire juive-chrétienne, juive et chrétienne. Et alors, avec Christophe Lusenberg, c'est pour ça qu'il est l'objet de deux fatwas de la part des musulmans, c'est tout le montage des origines de l'islam qui se trouve totalement bouleversé. Autrement dit, le Coran, c'est pas du tout une révélation originale.
Ah non?
Pas du tout. Il y aurait l'emprunt à une secte disparue de l'église chrétienne, qu'on appelle judéo-christianisme, c'est-à-dire une sorte de plagiat du judaïsme et du christianisme. C'est-à-dire, c'est une hérésie, et que du fait de la disparition du judéo-nazaréisme, du fait de l'ignorance du syriaque et de l'araméen par les gens qui ont fait les commentaires, c'est-à-dire les Iraniens, les Persans, eh bien, il y a eu des tas de contresens, des erreurs monstrueuses qui ont abouti à faire du Coran, dans certains cas, un livre totalement illogique, totalement illisible,
oui.
Alors qu'en réalité, si on le relie avec une lecture arabo-syriaque, ça donne un sens, c'est-à-dire c'est quelque chose de terriblement emprunté et au judaïsme et au christianisme, aux deux.
Vous risquez gros, là, Madame Delcambre, avec ce que vous...
Je sais, parce que de toute façon...
Est-ce que vous me dites là que ce serait carrément un clone?
Alors, attendez, le problème. Moi, on a travaillé avec Lusenberg. Lusenberg
oui.
M'envoyait des mails cryptés tellement il vit dans la terreur.
Ok.
Mon éditeur a dit, on met ça dans le livre consacré à Moussali, mais on le met au milieu du livre parce que j'ai pas envie que mes éditions soient... bon. Et moi, j'ai décidé, comme sérotique.com, où l'on peut tout dire, de le rendre accessible à la majeure partie des gens pour dire à ceux qui m'attaquent parmi les musulmans, vous me reprochez de vous faire la lecture des islamistes. Eh bien, je vais maintenant vous faire la lecture des savants concernant votre texte. Et vous verrez qu'entre la lecture des islamistes que je me tue à vous faire tous les vendredis et cette lecture-là, eh bien, je vous assure qu'il n'y a pas de comparaison. Parce que cette lecture-là que fait Luxemburg et que fait, par exemple, des gens comme le père Marie Galaise ou celui qui a écrit « Lecture juive du Coran », ils sont tous savants juifs et chrétiens, sont d'accord pour voir qu'on a plagié leur texte. Eh bien, je dis qu'entre les deux lectures, ils regretteront la lecture que je faisais de la lecture des islamistes.
Madame Delcam, on me dit en clair, et je ne sais pas si cet auditeur, bon, enfin, cet auditeur s'exprime ici à live@rocky.com, en clair, le Coran aurait été copié sur le Nouveau Testament. C'est pas vraiment ça que vous dites, là?
Non, ça, je crois que là, l'auditeur n'a pas compris. Hein.
Non, c'est ça, il n'a pas saisi tout à fait. Là.
Il n'a pas été copié sur l'Ancien Testament. C'est une hérésie chrétienne, judéo-nazaréisme,
voilà.
qui se trouvait parmi les nombreuses hérésies à l'époque, et qui par conséquent, parce que je pense moi que Khadija, la première femme du prophète,
ouais.
était une, c'est pas moi qui le pense, c'est pas moi qui le dis, c'est Christophe
Sandberg,
elle était une nazaréenne et son cousin, Warqa ibn Nawfal, était quelqu'un qui connaissait les écritures hébraïques et chrétiennes, et c'était ce qu'on appelle une secte judéo-nazaréenne.
Un peu comme la tribu K.
Ouais.
D'une certaine façon.
Et alors, vous comprenez qu'entre cette analyse de Luxemburg et l'analyse de... Vous savez, il y a sur la page 1 du site LibertyVox un article excellent d'Arouet le Jeune, c'est notre Voltaire, là, sur les nouveaux penseurs de l'islam. Et ce que fait Arouet le Jeune, c'est un brillant professeur des universités, hein, il ne le dit pas, c'est qu'il a assassiné Rachid Benzine, et c'est un des, vous savez, des nombreux gens Malek Chebel, qui a écrit un livre qui s'appelle « Lire le Coran autrement ». Et alors, ce qui est très bien, c'est qu'Arouet le Jeune, il dit, mais il applique des analyses, ce pauvre Rachid Benzine, qui date des années 50. Vous savez, quand on parlait la nouvelle sémantique, la nouvelle herméneutique, la nouvelle linguistique, la nouvelle sémiotique.
Tout à fait.
Et alors, c'est trop drôle, parce que ce que fait Arouet le Jeune, il dit, ces gens-là, les nouveaux penseurs d'islam, qui sont pas du tout nouveaux, ils appliquent au Coran des méthodes de téléphone. Vous savez, ils disent, par exemple, voilà, le Coran est un acte de communication. Allah, c'est l'émetteur du message. Okay. Mahomet, c'est le récepteur. Et les croyants aussi. Et ce sont les récepteurs qui disent le sens du texte. Comme dit Arouet le Jeune, c'est là vraiment un discours uniquement à l'intention des gogos et des crétins d'Occident. Parce que là, ils retrouvent une méthode de lecture, je ne sais pas si vous avez ça également au Canada, c'est ce qu'on appelle une méthode de lecture dite de réception polysémique ou de déconstruction. C'est-à-dire que vous lisez, en fin de compte, ce sont les lecteurs qui font le texte. Et moi, je sais qu'il y a des gens
exactement.
Qui
non, c'est exactement ça, Madame Delcam.
Et alors, vous savez qu'il y a des gens qui nous ont fait chier chez nous, hein, comme Mohamed Harkoun, pendant des années avec ces méthodes. C'est-à-dire que, voilà ce qui se passe, Ismaël, n'importe qui peut dire n'importe quoi de n'importe quel texte, puisqu'aucun texte n'a de sens vraiment établi. On aboutit au relativisme du genre, tout se vaut. Tout se vaut, c'est-à-dire, mais dire ça, vous savez pourquoi c'est pas neutre de dire ça, tout se vaut? Ça veut dire que le texte de Platon, c'est la même chose qu'un texte sur, comme dit Arouet le Jeune, c'est pareil, ça n'a pas plus de valeur qu'un texte sur l'infibulation des petites filles au fin fond d'Afrique.
Franchement.
Et ça veut dire, attendez, mais c'est très intéressant, vous savez pourquoi? Parce que ça veut dire que l'islam vaut bien le christianisme. Et là, et l'intérêt de ces mecs, vous savez qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent... Si on dit le Coran, c'est pas des versets. Arrêtez, Delcam, la folle, là, de prendre chaque petit verset. Le Coran, c'est une structure globale. C'est un système. C'est pas une suite d'unités isolées, de versets isolés. Pas bête, la puce, parce que comme ça, ils évitent des versets dangereux, les versets violents. Ils disent, il y a une cohérence interne. Alors, en même temps, ils disent, dans la partie est semblable au tout. Le tout est enfermé dans la partie. Il parle de cercle herméneutique. Et à ce moment-là, ils clouent le bec aux adversaires de l'islam. C'est-à-dire qu'ils évitent les jugements de valeur portés sur le Coran. Parce que c'est sûr que le jugement de valeur porté sur le Coran tel qu'il est lu actuellement, c'est du genre, le Coran est un tissu de conneries, c'est un assemblage hétéroclite, c'est un ramassis de versets appelant au meurtre ou à la haine. Mais en disant, mais non, mais regardez, là là, les racistes, oh les horribles, les racistes, c'est pas ça. C'est un cercle herméneutique, c'est une structure, il y a une cohérence interne et pour pouvoir comprendre le sens du Coran, il faut prendre le tout et c'est à travers le tout que vous trouverez le sens de la partie et la partie n'a pas plus de sens que le tout et le tout a moins de sens que la partie. Attendez là, ce sont des charlots ces mecs. Et alors il y a une excellente analyse de Harwell le Jeune sur notre site.
Des
et c'est ça qu'on a chez nous,
ouais.
C'est-à-dire des gens qui se masturbent. Moi j'appelle ça, devinez, je le dis, c'est enculer les mouches en plein vol.
Oui, de la masturbation intellectuelle.
Ben, exactement, mais c'est pas bête, parce qu'en disant cela, quand vous avez un Rachid Benzine ou un Malek Chebel qui prennent les Européens pour des cons et qui leur sortent ce genre de nourriture qu'adorent les pauvres, nos pauvres relativistes gauchos-islamistes, islamophiles, ils sont heureux parce qu'ils retrouvent un peu ce qu'ils connaissent. Ils disent, oh, une réception polysémique, le Coran est polysémique, hein, vas-y mon toto, polysémique, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs sens. Par conséquent, ce que fait Delcambre, qui fait de l'ombre au con, la concombre, c'est nul. Il n'y a pas de sens. Il y a tous les sens. De même que c'est ça. C'est, il n'y a pas, c'est unisexe. Il n'y a pas un, vous voyez, alors ils sont là en train de se gargariser. Et le résultat, on ne se focalise pas sur ce qui pose problème, sur les versets dangereux, parce que je les reprendrai, hein. L'analyse de Luxemburg, c'est vraiment pour les chercheurs. Mais moi, je m'en fous que ça soit le plagiat du judaïsme ou du christianisme, c'est pas ça mon problème. Moi, je veux lire le Coran tel que le lisent les islamistes.
Finalement, madame Delcambre, on a une grosse bataille qui est sur le langage, et même
c'est très juste, excellent.
Ça, c'est de la part d'un auditeur, Flo, et qui dit aussi que ceux qui dévient son utilisation vont le voir se retourner contre eux. Est-ce que
très
c'est
juste.
C'est exact, hein?
Très juste, parce que il suffit qu'ils tombent sur quelqu'un qui va les piéger avec leurs armes. C'est-à-dire que ce qu'ils font actuellement, c'est ils détournent l'attention, ils sont en train de... Vous voyez ce que fait... Pourquoi j'ai voulu faire cette analyse de Luxemburg? C'est qu'actuellement, ils sont en train de produire du genre... ils islamisent tout le discours chrétien. On voit des... Actuellement, il y a une conférence qui va... Marie la musulmane. Jésus, le musulman nommé Jésus. Alors, je dis, puisque vous dites que vous islamisez la chrétienté, moi, c'est la réponse de la bergère au berger, je dis, écoutez, mes connards, n'islamisez pas le christianisme, puisque vous vous êtes servi du christianisme hérétique et du judaïsme pour faire votre popote. Donc, au moins, écoutons l'analyse de Luxemburg qui fait que vous avez tout plagié. Et en disant que on trouve des choses analogues dans l'islam, que l'islam c'est la meilleure des religions, je dis non, c'est la dernière et c'est celle qui a le plus copié les autres.
J'ai ici, madame Delcambre, il y a un Neuronium qui nous envoie ceci, c'est Sourate 65, verset 1, j'espère que je ne me trompe pas. Quiconque transgresse les lois d'Allah se fait du tort à lui-même. Est-ce que c'est exact?
Eh bien, c'est exact, c'est marqué ça, mais je vois pas en quoi ça s'applique à moi.
Non, mais je sais pas pourquoi, d'un, j'aimerais bien savoir, c'est parce que ça a été envoyé de sa part à live@rocket.com. Il y a aussi un autre truc qui nous envoie, je vais quand même écouler là, ce qui est mentionné.
Alors, quiconque transgresse les lois d'Allah se fait du tort à soi-même,
oui.
C'est exact.
Okay.
Mais moi, je ne transgresse pas les lois d'Allah, puisque de toute façon, en général, cher auditeur, j'essaie de dire le maximum de choses le plus platement possible, exactement comme les lisent les musulmans, les pieux musulmans, okay. De tout le monde musulman.
J'en ai une autre ici. Pourriez-vous également lui demander, ben, je vous demande, Mme Delcombe, de nous parler des anges qui arrachent les âmes, violents ou pas?
Sur les anges?
Ouais.
Qui arrachent les âmes?
Ouais, les âmes. Est-ce que c'est violent ou pas? Avec un point d'interrogation, bien sûr.
Mais si, ben, attendez, ben, pour moi, alors, on ne va pas reprendre ce sujet qui m'est cher et que je reprendrai. C'est que je pense qu'il y a une grande violence et ça provient du fait que, étant donné qu'il y a eu une, si je puis dire, une reconstruction par des convertis. Vous voyez, comme, voilà comment ça marche, la langue arabe, Ismaël.
Oui.
C'est qu'il y a des points sur les lettres.
Okay.
Donc, si vous enlevez des points, vous avez d'autres mots.
Okay.
Et okay. quand il y a eu les commentaires du Coran, quand c'était pas compris, quand ça n'était pas compréhensible, on a pris quelque chose qui était conforme à une structure bédouine. Ce qui fait que le texte, effectivement, est violent, puisqu'il a perdu sa spiritualité. Il aurait pu avoir la spiritualité si on retrouvait les textes inspirés, qui sont des textes, effectivement, de rite syriaque, ouais. de chrétien syriaque. Mais le problème, c'est ce que m'a dit ma collègue, professeure d'hébreu, qui est une de mes collègues, une agrégée d'hébreu, elle a dit, attention, dans les sectes juives aussi, il y avait aussi des sectes extrêmement violentes. Vous voyez, qui était en quelque ouais. sorte pour faire régner. Donc, le problème de la violence dans le Coran est actuellement tel qu'il est lu, tel qu'il peut être lu, c'est sûr que la violence est à tous les niveaux. Donc, je dis qu'il y a une réelle violence.
Est-ce que ce que vous m'avez dit aujourd'hui, là, concernant que ce serait d'une certaine façon une copie, est-ce que vous avez mentionné ça, exemple, à vos étudiants dans vos cours?
C'est-à-dire qu'attention, nous on l'a fait paraître dans un livre, on l'a fait paraître dans le livre okay. Enquête sur l'islam.
C'est ça.
C'est l'article. Nous on pensait que ça serait une véritable bombe. On s'était presque protégé avec. C'est l'article de Luxembourg qui a oui. dit Noël dans le Coran. Et nous on avait tout le monde. On en était malade. Mohamed Harkoun a dit oh là là, mais vous voulez une peine de mort là de la part des musulmans. Mais c'est si peu compris, ça a si peu été compris par les gens. C'est pour ça que je voulais absolument que ça passe sur Rakik.com, que les gens n'y ont pas fait attention. Et quand Luxembourg a voulu développer ça, parce qu'il écrit en allemand en principe, hein, il a voulu développer ça dans les journaux, ont dit non, on ne veut pas d'histoire, ça, c'est comme l'histoire des caricatures, on ne veut pas. Parce que ça, Luxembourg, c'est ce qu'il dit, ça veut dire que ça fiche totalement par terre tout ce qui est cru par les musulmans actuellement. Vous voyez, c'est un peu comme les manuscrits de Qumran. Vous voyez, c'est-à-dire ça remet en cause toutes les origines de l'islam. Complètement. Alors, regardez les kamikazes qui se font sauter pour avoir des vierges au paradis, quand ils vont savoir qu'ils font ça pour des prunes et qu'ils n'auront ouais. que du raisin, ben, je vous assure que se faire tuer pour avoir des grappes de raisin, moi je trouve que ça ne vaut pas la peine. Hein. Faut mieux avoir des vierges qui vous font, sur lesquelles vous pourrez...
Mais ce que vous me comptez là en ce moment, est-ce que... Les plus connaissants, ou enfin les plus connaisseurs, imams, sont au courant.
Ah ben, ils font tout pour occulter, puisque de toute façon, je vais vous dire une chose. Non, voilà le problème. C'est que les écrits de Luxembourg, qui est un grand savant allemand, sont connus par les intellectuels de l'islam.
Okay.
Mais eux, ça les arrange pas du tout de prendre ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ça les arrange pas. Et l'imam, c'est pour ça que je voulais absolument faire paraître ça sur Rocky.com. Parce que c'est un scoop dans la mesure où...
Ah, oh, c'en est un. Oh oui, c'en est un, c'est sûr.
Ben, c'est sûr que ça va faire du bruit dans les chaumières. D'autant plus que c'est pas Anne-Marie Delcamp qui dit ça. C'est Christophe Luxembourg, et je vais orthographier son truc. C'est Christophe, je l'ai mis K-C-H-R-I-S-T-O-P-H, sans E, hein, Christophe sans E.
ouais.
Luxembourg, L-U-X-E-N-B-E-R-G. Tout le monde connaît Christophe Luxembourg. Surtout quand il y avait même eu un article de Rémi Braque, qui est le grand responsable des études philosophiques, responsable d'agrégation de philo à Paris 1, et qui avait fait quelque chose. Mais là aussi, ça paraît dans des revues très confidentielles, des revues très scientifiques. C'est ça le problème. Et ça n'est jamais donné au grand public. Ça, c'est impossible que ça paraisse, par exemple, dans le journal Le Monde, parce que si quelqu'un dit ça dans le journal Le Monde, l'analyse Noël dans le Coran... qui remplace la fameuse sourate qui était en quelque sorte de la révélation du Coran, hein, qui est récitée avec ferveur le mois de Ramadan, ça veut dire qu'il y a une révolution, le journal il saute, hein.
Effectivement, Madame Delcamp, en tout cas je suis surpris, mais j'ai encore ici une Neuronium qui me dit, comme dirait Messaoud Bourras, tuer les tribus juives, ben il n'y a pas 1000 traductions à ça.
Ah mais c'est exact ça. C'est, de toute façon, voilà le problème, c'est que la secte judéo, justement, la secte judéo-chrétienne, là, dont s'est inspiré le Coran, c'est précisément qu'il y a un accent anti-juif et anti-chrétien en même temps. Vous voyez, tout en reprenant des hymnes qui ne disent pas leur nom. C'est ce qu'on appelle la copie, hein, le plagiat.
Oui.
Et moi, je pense que ça n'a pas été fait. Faut pas être... Parce qu'il y a eu un petit avertissement là, qui vous a été donné. Je ne veux pas dénaturer. Je dis que le prophète de l'islam, marié à sa première femme, okay. Khadija, qui était nazaréenne, judéo-nazaréenne.
Comment qu'elle s'appelait déjà?
Khadija. Oui, Khadija.
Okay.
Khadija. Le K-H, ça se prononce.
Ok, exactement.
Oui. Eh bien, je pense que cet homme était un peu voyant. Il faut pas non plus. C'est sûr que, inspiré par le cousin de Khadija, Waraka ibn Awfal, il se peut qu'il ait eu des trans et que tout d'un coup, c'est comme si vous, tout d'un coup, vous avez des illuminations concernant la radio et vous dites, je sens que Rokik doit soit continuer ou fermer. Ben oui, attendez, c'est ça aussi, hein, les mystiques. Bon, vous savez, le phénomène mystique, je suis pas trop spécialiste de ça.
Ah non.
Et ce qui est certain, c'est que lorsqu'il était pris de... C'est pour ça qu'on a dit qu'il était épileptique. Quand il était pris de ce genre de révélation au début, il grelottait, celui qui est couvert d'un manteau, il fallait qu'il mette un manteau sur ses épaules, et que dans le peuple, on parle encore de la maladie du prophète pour désigner les gens qui sont, vous voyez, qui sont pris de tremblements, qui sont, un peu des phénomènes de, ben, vous savez, de maladie de l'épilepsie, quand on tremble, quand on a froid, quand on entend des clochettes, c'est ce qu'il entendait, hein, et les textes musulmans le racontent.
Madame Delcambre, les informations que vous me donnez, là, il y a des gens qui nous disent, il y a quelqu'un qui nous dit, Laurent qui nous dit qu'il serait prêt à publier ça sur son site. Hein.
Ah non, uniquement LibertyVox et Rokik.com. Je suis très ferme,
yeah.
Je m'excuse, hein. Non, de ce point de vue-là, l'exclusivité, c'est pour ça que j'ai fait en sorte de garder un peu le secret. Comment dirais-je, je voulais que la publicité, non, moi je suis d'accord, je suis pas d'accord avec ça.
Mais moi je vous aime, Madame Delcambre, c'est aussi pour ça.
Ben non, parce que c'est mon, comment expliquer, je trouve que lorsque j'ai vraiment gardé, je me disais, est-ce que ça va paraître, est-ce que ça va pouvoir passer,
oui.
Parce que c'est très très difficile.
Ben jusqu'à maintenant, Madame Delcambre, êtes-vous satisfaite de Rokik.com, êtes-vous satisfaite du Liberty
Box? J'ai pu faire passer tout ce que je voulais. Hein.
Bon. Et c'est pas terminé non plus.
Ben c'est bien.
Et c'est pas terminé. On va continuer à botter les culs ensemble, Madame Delcambre, mais j'espère le plus longtemps possible. J'ai un autre truc ici qui m'est venu de Sky Surfer qui nous demande, toujours via le live @rocket.com, Madame Delcambre, pour nous qui ne parlons pas arabe, comment répondre à l'argument que nous opposent les musulmans, il faut parler arabe pour vraiment comprendre le Coran et blablabla.
C'est pas vrai du tout, parce que je vais lui donner à ce charmant auditeur.
Oui.
Je vais lui donner, c'est très simple, je sais pas si c'est possible s'il habite la France ou le Canada, mais en tout cas, moi je suis allée à la librairie très catholique de la Procure, ils envoient maintenant des Corans sortant de leurs imprimeries islamistes qui viennent soit de Lyon, soit même d'Arabie Saoudite, ils ont des traductions, parce que ce qui nous importe, nous, c'est pas les traductions supervisées par Malek Chebel ou autre charlot du coin. On s'en fout, nous, de leur truc. Non, ce qui est important, c'est de voir les textes sur lesquels s'appuient les djihadistes, sur lesquels s'appuient les islamistes. Et je voulais... C'est vrai, je suis un peu comme Dantec, ça me fait un peu de peine de faire de la pub pour eux, mais il faut quand même en faire un peu. Pourquoi?
C'est-à-dire
qu'il faut acheter les Corans publiés par l'Arabie Saoudite, parce que vous êtes sûr d'avoir que le mot « Qatala », tué, etc., ça ne sera pas gommé. Sinon, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas encore arrivé, mais c'est vrai que j'aime pas quand on dit, par exemple, pour les gens qui disent Jésus, fils de Marie, là, que c'est le Messie,
oui.
qu'il y a une traduction qui soit anéantie,
oui.
Eh bien non, en réalité, c'est Katalahum,
ben,
qu'il soit tué. C'est
j'ai quelque chose, Madame Delcambre.
Exactement, oui.
J'ai quelque chose ici, justement, par rapport à ce que vous me dites, là, par rapport à Jésus. J'ai Laurent qui me répond ici, comment Marie aurait pu être musulmane alors qu'elle a vécu 600 ans avant l'islam? Les musulmans nous prennent pour des cons.
C'est pas ça, c'est très bien ce qu'il dit, parce que s'il y a la confusion, j'en reparlerai, ça.
Oui, c'est très bien ce qu'il nous dit, mais ils nous prennent pour des cons.
Non, c'est pas ça, c'est que,
ah non?
Ce qu'il dit, c'est que s'il y a la confusion des deux Maries, Marie, sœur de Moïse, Mariam, et Marie, mère de Jésus, ça montre bien qu'il y a eu, vous voyez, que dans tous ces textes dont s'inspirait le Coran, ben, il y a eu, on a pataugé dans le, vous voyez ce que je veux dire, ben oui, c'est ça. Et ils sont très très embêtés pour expliquer les deux maris dont j'ai des comment dirais-je, une distance de temps incroyable sépare les deux. Pour expliquer ça, vous voyez pourquoi c'est très... C'est pas qu'ils nous prennent pour des cons, c'est que ces textes, il y a des erreurs, et que lorsque, justement, ce texte a été récité devant les tribus juives de Médine, les rabbins se sont dit, mais attendez, là, qu'est-ce qu'on raconte ?
Ouais,
on vous racontait des trucs, et c'est là où le prophète, tout à fait furieux qu'on ne l'écoute pas, a commencé à nourrir cette haine à l'égard des juifs qui depuis jusqu'à maintenant ne s'est pas arrêté.
J'ai Super Résistant aussi que vous connaissez peut-être un peu. Le connaissez-vous? Vous connaissez Super Résistant?
Non, je l'adore. On correspond par mail.
Ah d'accord.
Sur le forum, ouais.
il dit qu'il a une édition de Payot. J'espère que je le dis bien. Supervisée par Malek Chebel. L'avantage c'est que.
Oh là là, il faut.
Chebel ne peut pas dire qu'on n'a pas compris non plus là.
Non, mais alors à ce moment-là, vous dites à Super Résistant qui jette sa traduction, qui jette sa traduction à la poubelle. Je lui en fais envoyer par l'intermédiaire de Judith ou de Rockick un autre.
Ok, d'accord. Vraiment. Sans problème.
Ah oui, oui. Ah non. Ou alors qu'il utilise. Enfin, je vais pas être grossière parce que.
Allez-y. Là, comme on dit en québécois, lâchez-vous lousse.
Ça veut dire quoi?
Ben, qu'est-ce que ça veut dire? Lancez-vous, c'est ça que ça veut dire.
Ben oui, mais non, j'allais être... Non, déjà, je vais pas aggraver mon cas parce que...
Oh, mais c'est pas...
en train de dire à Super Résistant que ce Coran-là, avec la préface de Malek Chebel, il pouvait le mettre dans les chiottes. Oh, non, pardon.
Mais... Oh merde! Non, mais.
C'est pas parce que c'est grand, mais parce que c'est Malek Chebel.
Moi, j'étais sûr, Madame Delcam, que votre scoop aujourd'hui, c'est que vous alliez annoncer aux auditeurs que j'étais votre fils. Bon. Je suis.
C'est mieux que Marie conçue sans l'intermédiaire d'un homme. C'est génial, ça. Ah, ben oui. Ah, ben vous savez que les ondes, moi, je dis franchement. Oui. À la mesure. Oui, attendez, non, soyons pas. Mais...
Je suis peut-être votre fils spirituel, je sais pas.
Ben, vous savez, avec l'histoire de la communication des ondes et de la polysémie, ben ouais, peut-être que
on
le sperme se propage par les ondes. Mais non. Là, c'est plus le temps, c'est la distance. Non, mais c'est vrai, hein. Maintenant, on peut tout faire, c'est vraiment une radio libre.
On me dit toujours, et ça, c'est toujours des messages, hein. Il est avec nous de 9h le matin à 13h de l'après-midi, c'est-à-dire 15h à 19h, Super Résistant nous envoie toujours des messages très, très éloquents, Mme Delcam. Il dit que, concernant son ouvrage, là, qui a été supervisé par Malek Chebel, eh ben, le papier est fin, alors je peux me torcher avec.
Mais parce qu'ils utilisent du papier fin, ben vous savez que dans nos campagnes, on utilisait du papier journal.
Oh merde, c'est le cas de le dire.
Mais alors vous dites à un Super Résistant de prendre plusieurs feuillets à la fois.
Oui, parce que... Ça risque de percer, oui.
Mais vous savez que,
pardon,
trêve de plaisanterie, là,
oui.
Le fait de quand il y a des... Enfin, je sais pas, son Coran, il est en français, donc c'est pas grave. Mais s'il y avait des caractères arabes, on n'a pas le droit, on n'a même pas le droit de mettre le Coran, par exemple, en dessous de quelque chose. Alors, vous mettez votre Coran avec les caractères arabes, Coran en arabe, et puis par-dessus, je sais pas, vous mettez par exemple un panier de prunes ou des carottes que vous avez achetées au marché. Non. Non, faut être très respectueux, hein. Et en plus, le Coran, vous pouvez pas le toucher avec les mains impures. Par exemple, une femme qui est indisposée, mais qui a ses règles, oh là là, c'est comme un chien.
Mais Madame Delcam, j'ai toujours été respectueux, vous le savez.
Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai.
Hey, un dernier petit truc, Madame Delcambre. Oui. Cette semaine, il y a quelqu'un qui nous a envoyé des photos de femmes voilées qui sont allées faire pipi en dessous d'un escalier.
Ah, oh, j'ai vu ça.
Ouais, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'ils marquent leur territoire comme les chiens?
Non, je crois que le okay. problème, c'est que c'est un peu cette...
Oui.
Cette... j'ose pas dire, cette honte. Il y a une sorte de mélange de ne pas aller dans les toilettes fréquentées par d'autres personnes, hein, c'est le cas de le dire. Et donc, ben oui, elles sont allées faire. Et je pense qu'il y avait des barbus qui étaient là en train de surveiller pour que personne ne vienne.
Okay.
Oui, mais ça, c'est tout à fait... Mais vous savez que ceux qui connaissent bien le nord de la France, une fois, j'étais allée me promener du côté de Lille et on avait vu une femme musulmane qui était en train de faire pipi, dans la rue, comme ça, devant les gens absolument affolés. Mais vous savez, elle a fait pipi, c'est-à-dire en marchant.
Ah oui, elle faisait pipi sur elle-même, c'est bien.
C'est ça, en marchant. Et j'avais un collègue d'Espagnol à qui j'ai raconté ça.
Ouais, mais c'est plus vite.
Et il m'a dit, vous savez, faut pas être trop sévère à l'égard de ce comportement, parce que dans les campagnes, en Espagne,
c'est sûr.
Il y a quelques paysannes.
Ben, c'est pas de leur faute, ils sont pas civilisés.
C'est-à-dire, disons que c'est une... Voilà, on va se faire tuer, là.
Oh, mais moi, non, laissez-moi me faire tuer. Moi, ça me dérange pas.
Oui, d'accord.
Oh, je suis intouchable, the unbreakable.
Oh.
Attention, là, quand même, faut pas exagérer, mais disons que je trouve ça assez spécial de voir des comportements aussi. Je sais pas comment décrire ça, c'est spécial. On va dire spécial.
Alors là, je dois dire, là, c'est pas pour être équitable. Hein.
Oui,
c'est que ce sont en général des gens venant. C'est pas comment dirais-je les gens les plus cultivés qui viennent ici dans les pays travailler. Donc c'est vrai que c'est un peu comme si vous preniez, je prends la France hein, pour ne pas choquer le Canada, c'est comme si vous preniez des paysans du fin fond de nos campagnes normandes, ou vous voyez ce que je veux dire, ou de la Bretagne. Vous savez, chez nous, il y a des gens dans les fermes, le fumier est à côté, c'est pas Versailles, hein, c'est pas un palais de Versailles.
Non.
Donc il y a des gens qui viennent des campagnes. Et vous pouvez pas non plus juger tous les gens, parce qu'il y a, Dieu sait s'il y a quand même des gens, bon, moi j'irai pas jusque là, vous voyez ce que je dirais que c'est une question de milieu social. Ce sont des gens qui généralement viennent de milieux un peu défavorisés, qui se comportent de la campagne, hein, et je pense que, ils se comportent, comme on peut trouver
peut-être
dans n'importe quel pays.
Ouais. En terminant, Madame Delcambre, juste nous répéter une dernière fois le prénom et nom de cet Allemand qui,
Ah oui, ça c'est très important, parce que tout le monde vous donnera raison. Je vais le redire.
Oui, s'il vous plaît.
Je vais l'appeler correctement, parce que ça, vous pouvez faire. Et j'ai d'ailleurs mis sur le site à la fois tout ce que le nom. Alors, Christophe, C-H-R-I-S-T-O-P-H, Christophe, sans E.
Sans E, ok.
Luxembourg, L-U-X-E-N-B-E-R-G. Christophe Luxembourg. Okay. Christophe Luxembourg, qui écrit en allemand et qui a fait paraître.
Est-ce qu'il parle français?
Qui est célèbre pour avoir précisément dit que la langue qu'il fallait considérer, la langue contemporaine de l'époque de Mahomet, c'était un mélange d'arabe et de syriaque. Christophe Luxembourg.
Parle-t-il un peu français, Madame Delcambre? Aucune idée. Hein. La question est peut-être, je sais pas, un peu...
Le problème, je sais, vous rêveriez de l'avoir... Je pense... Oui, mais le problème.
Oui.
Non, là, je dis franchement, il est sous le coup de deux fatwas. Il ne peut pas, même nous, quand on a... Vous voyez, on l'a mis dans notre livre, hein, Enquête sur l'islam, et je n'ai corrigé son texte que... Et même moi, j'ignore exactement son adresse, son... Parce qu'il vit dans la peur, hein.
Ben oui, ben j'espère.
Non. Et d'autant plus.
Ben,
d'autant
c'est plus. Parce que, dire, non, mais je veux dire.
Oui.
Parce que vous n'avez pas compris là, ce que j'ai employé comme mot. Ce que je veux dire, c'est que oui, effectivement, il doit avoir peur.
Ah oui, non. Déjà, vous savez ce qu'a dit Mohamed Harkoun, et bon, lui, il écrit aussi des choses sur l'islam, assez un peu comme Rachid Benzine ou comme Malek Chebel. Mais Malek Chebel, Rachid Benzine, Harkoun, tout ça, ce sont des charlots. C'est-à-dire qu'ils appliquent des méthodes occidentales au Coran, mais c'est pas ça qui fait peur aux musulmans. Vous voyez ce que je veux dire? En revanche, ouais. Luxembourg, c'est tout l'édifice qu'il met par terre. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire?
Oui.
C'est grave, ça. Il a à un moment donné essayé de faire paraître une traduction allemande, demandé là, à comment elle s'appelle, Batior, il a essayé de faire paraître un de ses livres dans une édition et l'édition a été ruinée carrément par l'Arabie Saoudite. Elle a disparu, l'édition. La maison édition a fait faillite tout de suite.
Oui, mais ils sont plein d'argent. Ils sont riches, mon gars, ça n'a aucun bon sens. C'est pas millionnaire, c'est milliardaire.
C'est exact.
Ils sont milliardaires. S'ils décident d'un moment donné de commencer à tomber sur le cas de quelqu'un, s'ils décident de poursuivre quelqu'un, c'est en est terminé pour cette personne-là.
C'est exact.
À moins d'avoir un riche Texan multimilliardaire à son tour qui veut nous sponsoriser pour nous sauver le cul, mais ça m'étonnerait.
C'est-à-dire que le problème de Luxembourg... Moi, j'ai vraiment hésité avant de le dire. Moi, je dis ça existe. C'est le plus haut niveau de la... Les chercheurs font référence à Luxembourg. Personne n'ose le dire parce que les gens font, j'allais dire vulgairement, chient dans leur froc. Hein.
Ouais.
C'est-à-dire qu'ils ont peur. Moi, personnellement, je m'en fous. Je prends le Coran tel que le voient les islamistes. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire?
Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut surtout pas avoir peur. Il faut faire attention, c'est tout.
Moi, je ferai la même chose concernant... Moi, je vous assure que les évangiles apocryphes, etc., je ferai la même critique. Hein. C'est pas parce que c'est l'islam. Je dis que si on me démontre que telle religion, c'est du bidon, je ferai la même, je serai sans concession. J'ai ouvert un fil sur le Liberty Vox, la façon dont les musulmans voient le christianisme. Ben, je puis vous assurer que c'est très intéressant. Sur le célibat des curés, là, il y a des choses pas tristes. Quand ils disent que les jeunes, que l'Église attire surtout les jeunes,
ouais,
et les femmes et les jeunes, qu'il y a un poète arabe qui dit « Entre dans une église, tu y trouveras des gazelles et des antilopes », c'est pas dénoué de bon sens. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que c'est sûr que chaque religion a des fragilités, a des points faibles. Simplement, je dis, moi je suis un peu comme vous, c'est-à-dire que les religions, je trouve qu'il faut faire très attention, hein, parce qu'il ne faut pas non plus, moi je me polarise pas contre l'islam, je m'en fous.
Il y a une chose qui est sûre, Mme Delcambre, c'est parce que je suis pas contre les religions, c'est juste que j'ai toujours eu l'impression que la religion en tant que telle est une belle façon de déresponsabiliser l'individu. Hein,
toute idéologie.
Oh, tout à fait.
Voilà, c'est ça. Moi, je serais pareil pour attaquer le marxisme, le nazisme. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il faut montrer, ça je crois que c'est la supériorité de l'Occident, il faut avoir le courage, et je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous faire plaisir.
Oui.
La première fois, j'ai des étudiants qui sont venus, et comme ils ont vu ma liberté de ton sur Rockick,
ouais,
ils m'ont dit, voulez-vous qu'on vous raconte tout ce qui se passe en Tunisie?
Oh.
Comment en Tunisie on peut pas aller sur Internet?
Très
comment
intéressant.
Dès que quelqu'un essaie d'avoir un site un peu, etc., c'est tout de suite les gens de Ben Ali qui vont frapper le lendemain à la porte et qui l'emmènent directement en prison où ils sont torturés, où quelques-uns on les fait asseoir sur des bouteilles. Alors j'ai dit, écoutez, mes petits bonshommes,
voyons donc.
J'ai déjà suffisamment de casseroles attachées. Vous irez dire ça à qui vous voulez.
Ouais.
Mais moi, la Tunisie fait ce qu'elle veut dans son pays. Mais c'est sûr que ça montrait que les élèves, les étudiants disent, tiens, en France, on peut, pas en France, non, sur Radio Canadienne, parce qu'en France, on peut rien dire. On peut, sur RadioRockick.com, dire des choses qu'on ne peut dire nulle part ailleurs.
C'est très clair.
Ben oui, mais c'est bon.
C'est
moi, quand
très
on commence
clair.
À dire ça, c'est génial.
Ben c'est génial, on avance. Alors ça donne des forces. Ça donne forces à vous. Ça me donne des forces. Ça donne des forces au www.rocky.com, à notre show Wake Up, à donner des coups de pied et à continuer à défoncer des portes afin de faire entendre les choses telles qu'elles sont. Pas de faire à croire aux gens que le ciel est rose quand on sait tous que le ciel, ben il est bleu. À cause de quoi? Ben à cause de la couche d'ozone. C'est comme ça. C'est tout. Arrêtez
d'avoir... Je vais vous dire pourquoi le scoop c'est important pour vous, Ismaël.
Oui.
C'est
oui.
Que là, ce que j'ai fait là aujourd'hui, c'est pas, voyez, de l'attaque en disant, ouais, on attaque l'islam parce que c'est violent.
Non, non.
Là, il s'agit d'études extrêmement fines,
oui,
reconsidérant le texte initial du Coran, et en se disant, mais attendez là, est-ce qu'on se bat pas pour des prunes là? On est en train, c'est un peu comme, c'est écrit, mais est-ce que c'est vraiment écrit? Ça peut même faire réfléchir certains musulmans sur le contenu du texte, parce que mourir pour un texte dont on sait même pas s'il est vrai,
ouais,
eh ben ça donne à réfléchir. Vous ne croyez pas?
J'y crois, madame. Oh oui, madame Delcambre, j'y crois.
Et ça, je crois que c'est un devoir. Moi, je dis, d'accord, c'est pas seulement parce qu'on m'a reproché ça. On m'a dit, ouais, regardez, vous faites le jeu des islamistes, vous présentez le Coran tel qu'ils le lisent, eux. Je dis, là, je présente le Coran tel que les chercheurs l'analysent, en essayant de faire passer ça, alors que normalement, ça reste dans les universités, entre chercheurs qui se regardent les uns les autres et qui ne veulent pas du tout vulgariser leur savoir. Moi, je dis, tout le monde a le droit de savoir. Tout le monde a le droit de savoir qu'il y a une... C'est contesté, les origines de l'islam. Alors, il y en a un qui s'est récolté une belle fatwa pour avoir dit ça, c'est Salman Rushdie. Mais moi, je ne dis rien, hein, c'est Christophe Luxemburg. Anne-Marie Delcamp, ben, elle n'est pas un grand savant. Donc, Christophe Luxemburg, vous, voilà, c'est lui qui dit ça.
Madame Delcamp.
Oui.
Ben, il est déjà 13h03, je dois vous quitter.
Voilà, c'est ben, parfait, j'ai dit tout ce que j'avais à dire.
J'embrasse ma mère spirituelle aussi, hein.
Voilà, très bien.
Et je lui souhaite un bon week-end.
Mon fils spirituel, merci. Et...
Alors, maman, est-ce qu'on peut se reparler vendredi prochain?
Bien sûr, mon fils.
D'accord.
Pas de problème.
Et je l'embrasse, ma mère.
D'accord.
Bon week-end.
Au revoir.
Et attention, hein, s'il vous plaît, mettez votre foulard.
Bien sûr.
Oui, parce qu'il fait froid. Il fait froid.
C'est normal.
Couchez pas les fesses à l'air.
Bien. À bientôt.
Bye.
À vendredi.
À vendredi prochain, bye-bye. Alors, c'était Anne-Marie Delcamp. Hey, John, OK. Rapidement. Mets ta soin, Chris.
Rapidement?
Oui, rapidement. Le score,
mais... Pour émettre un commentaire ou joindre les animateurs en onde, c'est simple.
Allô?
Ouais. Je pense que ça irait plus vite par MSN. live@rockkick.com, la meilleure façon de nous joindre en tout temps.
Hey, les gars, j'ai trouvé une façon de sonner plus FM. D'accord.